Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Alors nous avons toutes ces séquences de ce chemin de lumière qui sont belles, qui sont simples, que nous reconnaissons. Nous voyons vers la finale cette Marie, mère de l'Église, qui est là. C'est la nouvelle Ève, c'est vraiment une femme. On voit vraiment que les artistes nous ont donné l'être féminin, la Vierge Mère, mère de l'Église, qui est en prière. Elle est en prière dans cette attente de la venue de l'Esprit-Saint avec les apôtres. Et ensuite, nous voyons l'Esprit-Saint qui envoie les disciples dans le monde entier. Recevez l'Esprit-Saint, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons tout cela. C'est très 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 beau, ce chemin de lumière. C'est de cette manière que l'enseignement non écrit se traduit et se manifeste. Les personnes qui entrent et qui n'ont aucune culture, je dirais, de la foi chrétienne, sont quand même questionnées. Parce qu'ils se disent, ce sont des êtres humains qui ont vécu quelque chose. Alors, c'est comme une serrure, mais il faut trouver la clé. Alors, la serrure a besoin de la clé. On regarde à travers la serrure, hein. Vous avez fait cela, comme moi. On regarde à travers la serrure, les anciennes serrures, il en existe encore. Alors on regardait, puis heureusement la lumière nous aidait à voir ce que nous voulions voir. Eh bien, la serrure, encore là, c'est l'humain, c'est la personne humaine. Quand on voit le visage, par exemple, de Jésus, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vécu? D'où vient-il? Comment se fait-il qu'ils l'ont représenté de cette manière? Par exemple, on voit la main de Simon-Pierre avec une clé. Je vous parle de serrure, mais je vous parle aussi de clé. La main et la clé. Eh bien, on se rappelle que c'est Jésus qui, devant ce que Pierre a dit, « Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Eh bien, Jésus lui dira, « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu déliras sera délié. » Donc, nous avons à la fois la serrure et la clé pour comprendre. Et la clé, à mon avis, ce seront toujours les Écritures. C'est la Bible et ce sont les évangiles. Alors les gens qui n'ont pas nécessairement cette culture chrétienne s'interrogent. Au moins il y a une curiosité de savoir ce qui s'est passé dans la vie de ces êtres humains. C'est cela, je reviens à cela. C'est toujours l'être humain qui touche l'être humain. On a beau aujourd'hui nous faire toutes sortes de monstres, ça attire bien sûr, mais ça attire pas longtemps. On crie, on se recule ou on passe à côté. Les monstres, ce seront toujours leur vocation de nous effrayer. Mais l'être humain, l'humilité de Charles Borromée, c'est ce qui transparaît à travers les siècles comme étant non seulement la serrure, mais la clé qui nous permet ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme qui a aimé l'Église, le corps du Christ, pour réformer les prêtres et faire en sorte qu'ils aient non seulement dans leur cœur l'amour du Christ, l'amour de Jésus pour le servir. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, eh bien, non seulement suivre Jésus, mais en même temps aussi avoir dans le cœur des pensées, des réflexions, une manière de vivre sainement et de pouvoir rayonner comme prêtre dans les différents milieux qui leur seront confiés. Nous sommes dans la confiance d'une Église qui ne peut pas vivre en dehors de la confiance de ses membres, et notamment du clergé, des prêtres. Donc Charles Borromée va redresser, le Seigneur va lui demander de redresser cette dimension sacerdotale, ministérielle, dans l'Église de son temps, mais son temps va se délier sur des siècles. Et aujourd'hui, on en parle encore. Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic dit la Fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. Vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. À noter que j'ai écrit ces textes à l'été 2019. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. Bien cher Béic, dit la Fleur, je vous arrive un peu affolé. J'ai eu un vent que votre cousine à San Damiano n'allait pas bien. Faites mentir cette annonce qui me trouble au plus haut point. J'imagine tous les scénarios et toutes les maladies qui la traquent. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais souhaité comme nouvelle. Mais je tente de me consoler par le fait que l'on m'ait tout de même parlé d'elle. Je trouve brutal d'apprendre une chose dont on perd tout contrôle par la suite, puisque je ne sais que le début d'une nouvelle et que je reste pantois comme un hibou sur une branche en plein jour. Les yeux me ferment et ma douleur est si vive. Je le répète, la seule consolation est de savoir qu'elle est là. Hier, j'ai fait un peu de route. Nous sommes toujours ralentis par ce climat qui nous affecte tous. Je remarquais que les animaux sont comme nous. Les oiseaux comptent leurs déplacements. Les chiens sont amorphes et n'aboient plus, ce que j'apprécie. Les moutons ne broutent plus et s'agglutinent sous les arbres. Il n'y a que les tortues, me disais-je, qui s'accommodent. Et encore, elles peuvent trouver leur carapace plus lourde. J'ai dormi dans une ferme avec d'autres mendiants comme moi. C'est là que l'un d'eux, qui fréquente San Damiano, m'a dit que votre cousine était malade. Pardonnez-moi, je dois rectifier. Il a plutôt raconté qu'il y avait une épidémie au monastère. J'estime toutefois
que l'épidémie touche la totalité des révérendes sœurs. Alors, mon esprit s'est aussitôt inquiété de votre cousine. Comment comprenez-vous que je ne me sois pas inquiété de toutes les autres, mais seulement de votre cousine? Sans doute parce que le cœur qui aime ne voit que l'objet de sa tendresse. Mais pourquoi le cœur, dans ce contexte, ne s'élargit-il pas aux autres? Il le devrait, non? Je me culpabilise de cette découverte en vous écrivant. L'amour, je dois bien l'avouer, s'est cristallisé sur une seule malade et a exclu toutes les autres en les rendant parfaitement en santé. C'est vrai. Je voyais toutes les autres au service de votre cousine en lui prodiguant leurs soins. Quelle étrangeté que cette découverte! L'amour devrait non pas se réduire, mais s'agrandir à la totalité. Dites-moi, cher Béic, peut-être écrira-t-on dans quelques siècles que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais c'est la seule issue que je trouve à ce problème, s'il en est un. Enfin, je souhaite qu'elles aillent toutes bien, mais je confesse un plus grand désir envers votre cousine. Ne lui dites surtout pas. Elle qui vit selon l'Évangile et cherche sans doute la dernière place. Ah, me viennent ces mots. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Elles sont de notre Seigneur, qui, en nous aimant tous, nous préfère chacun. Il n'y a que le Très-Haut qui puisse faire ça, nous élire comme unique. Priez pour tous et pour moi. Bernardo di Perugia.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.